Nous sommes mercredi 6 novembre, 15h, au lendemain des élections des présidentielles aux États-Unis. Même si les résultats ne sont pas encore totalement définitifs, il semble tout à fait clair que c'est Donald Trump qui a remporté cette élection. Du coup, pour commencer, première question qu'on a envie de se poser, quelques mots sur les résultats en eux-mêmes de ces élections.
Alors en effet, c'est une victoire nette pour Donald Trump. Il avait déjà toute une base électorale, on l'avait vu au précédent scrutin, et puis manifestement, cette fois-ci, il l'a élargi. Il a emporté non seulement le collège des grands électeurs, mais également le vote populaire, ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire le nombre de suffrages qui se sont portés sur son nom. On peut noter que, certes, aux États-Unis, il y a tout un électorat conservateur, voire réactionnaire, misogyne. Xénophobe, parfois religieux, ou un peu de tout ça à la fois, et sans doute que Kamala Harris a pâti du fait qu'elle était une candidate noire. Cela dit, l'administration Biden-Harris a largement déçu une partie de son électorat. On peut noter que Biden avait 7 millions de voix d'avance sur Trump il y a 4 ans. Là, Trump a plus de 5 millions de voix d'avance sur Harris. Les démocrates ont perdu plus de 10 millions de voix, et ça, c'est quand même apporté au débit de cette administration. Alors, qu'est-ce que c'est que cette politique qu'elle a menée pendant 4 ans? C'est une politique qui a favorisé les classes riches aux États-Unis et qui a été lourdement payée par les classes populaires. L'inflation d'environ 25% au cours des 4 années n'a pas été compensée du tout par une hausse des salaires en proportion. Des millions d'Américains ont perdu leur emploi et en sont réduits à avoir deux, voire trois emplois précaires et mal payés. Toute une partie vivent dans des caravanes, des mobilhomes, voire dans leurs voitures. Et il y a un appauvrissement de cette population, y compris de retraités, qui se retrouvent à distribuer des catalogues ou à dépendre de l'aide alimentaire. Alors bien sûr, en votant pour Trump, des électeurs des classes populaires ont voté pour un ennemi déclaré, mais ça s'explique aussi par cette déception de l'administration Biden-Harris. On peut dire que l'absence d'un parti qui représente vraiment les intérêts des travailleurs, il se fait sentir.
Et on imagine que le discours anti-migrant de Trump a aussi payé dans ces élections.
Sans doute, c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays historiquement d'immigration, mais qui a également été marqué par l'esclavage, par la ségrégation, par le racisme, par différents mouvements xénophobes qui se sont développés au 19e et au 20e siècle. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une dégradation de la condition des classes populaires, par exemple, les Haïtiens ou les Sud-Américains se transforment en bouc émissaire que Trump a utilisé dans sa campagne.
Justement, concrètement, qu'est-ce que l'élection de Trump va changer dans la politique intérieure, pour commencer?
Eh bien, Trump, il a promis immédiatement, dès qu'il serait au pouvoir, de faire une politique d'immigration beaucoup plus terrible envers les immigrés, et notamment l'expulsion du maximum de travailleurs immigrés, bien plus que ce que vont faire d'autres présidents dans l'histoire du pays. Alors, rendre étanche la frontière sud et même la frontière nord, ça c'est complètement illusoire. Mais par contre, s'en prendre aux travailleurs immigrés, ça oui, c'est bien possible. Il faut se rendre compte que le patronat américain a besoin des travailleurs immigrés. Il y a 45 millions de gens qui habitent aux États-Unis qui n'ont pas la nationalité américaine, ils travaillent dans tout un tas de secteurs économiques, le bâtiment, l'agriculture, la sécurité, et j'en passe. Et les capitalistes n'ont pas l'intention de se passer de leur main-d'œuvre, de les exploiter. En revanche, une politique plus dure de Trump envers l'immigration peut développer le racisme au quotidien, les brutalités de la police et un comportement plus dur de ceux qui patrouillent à la frontière avec le Mexique, que ce soit les forces de l'État ou les milices de volontaires contre l'immigration. Ceci dit, si Kamala Harris l'avait emporté, ça n'aurait pas été une protection contre le racisme. Quand Obama avait été élu, ça n'avait absolument pas empêché le comportement raciste de la police, et il y avait eu plusieurs meurtres racistes qui avaient déclenché d'ailleurs une réaction, et ça avait été d'ailleurs le début du mouvement Black Lives Matter.
Et pour le droit à l'avortement qui a été au centre de cette campagne, qu'ont donné les résultats?
Alors c'est vrai que le droit à l'avortement, il a reculé en 2022 quand la Cour suprême a autorisé chaque État à interdire l'IVG, et depuis 14 États dirigés par les Républicains ont interdit l'avortement, et 3 autres l'ont interdit après les 6 premières semaines de grossesse. Alors Kamala Harris avait effectivement fait du droit à l'avortement un argument de campagne, et dans 10 États, il y a eu des référendums organisés pour inscrire ce droit dans la constitution de ces États. Les résultats sont que dans 7 d'entre eux, le droit à l'avortement a été approuvé par les électeurs. Mais plus fondamentalement, la défense de ce droit acquis à une époque où il y avait un engagement dans le mouvement féministe beaucoup plus large, et d'ailleurs dans un certain nombre de mouvements contestataires, bien la défense de ce droit, elle repose justement dans les mains de ceux qui veulent vraiment le faire vivre et se battre pour.
Et au sujet de la politique étrangère des États-Unis, est-ce qu'on peut penser qu'elle va changer avec le retour de Donald Trump au pouvoir?
Alors, en ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les dirigeants européens, qui ne sont pas avares de déclarations belliqueuses, ont beaucoup compté sur les États-Unis pour mettre la main à la poche et fournir l'Ukraine en armement et en argent. Et ils redoutent que Trump contraigne Zelensky à un règlement négocié avec la Russie. Cela dit, malgré l'imprévisibilité de la politique de Trump et ses déclarations isolationnistes, les États-Unis ne vont pas renoncer à défendre leurs intérêts fondamentaux sur l'ensemble de la planète, en particulier vis-à-vis de la Chine, dans la région du Pacifique et en Asie du Sud-Est, où ils sont très massivement positionnés. On peut également ajouter que l'industrie militaire américaine, l'industrie de défense, qui est une industrie très importante, Outre-Atlantique, va et qui est ardemment défendue par les Républicains, ne va pas pâtir de l'élection de Donald Trump.
Et pour ce qui est du Moyen-Orient?
Alors, au Moyen-Orient, Trump est un soutien inconditionnel d'Israël et de Netanyahou, et ces derniers mois, il a affirmé son approbation de la politique israélienne contre les Palestiniens, contre le Liban et peut-être demain contre l'Iran. Cela dit, Kamala Harris et l'administration Biden ont eu également une politique de soutien à Israël. Et d'ailleurs, toute une partie des citoyens américains d'origine libanaise ou palestinienne ont rejeté la candidature de Harris en raison de cette complaisance vis-à-vis Netanyahou. On peut noter par exemple que dans une ville comme Dearborn, qui est une ville du Michigan qui compte une proportion importante de citoyens, d'électeurs d'origine du Moyen-Orient, alors que Biden avait eu 69% des voix en 2020, Harris n'en a recueilli que 36% cette fois-ci, et la candidate écologiste a obtenu 18% des voix en s'opposant à l'intervention d'Israël dans cette guerre.
Et qu'est-ce qu'il en est de la politique des États-Unis envers la Chine?
Alors, envers la Chine, Trump a promis d'augmenter les droits de douane à l'encontre des marchandises chinoises et d'un certain nombre de mesures protectionnistes. Et il pourra le faire d'autant plus facilement que les républicains emportent manifestement les deux chambres du Congrès. Sous son premier mandat, donc de 2017 à 2021, il avait déjà fait voter un certain nombre de mesures protectionnistes qui n'ont pas été abrogées par l'administration Biden. On peut ajouter que cette administration a fait adopter l'Inflation Reduction Act en 2022, qui est une loi très protectionniste de soutien aux industries américaines. Maintenant, concrètement, quels vont être les droits de douane et leurs taux que Trump va faire adopter dans les mois à venir? Il est bien difficile de le dire parce que le protectionnisme est une arme à double tranchant, et ce qui avantage certains secteurs de la bourgeoisie américaine peut en léser d'autres.
Ah ben justement, sur la bourgeoisie, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça change quelque chose, le retour de Trump au pouvoir?
Alors, les milieux d'affaires américains, la bourgeoisie américaine est habituée à l'alternance et elle s'est très bien accommodée du fait que régulièrement, un des deux partis, démocrate ou républicain, quittait le pouvoir au profit de l'autre. On peut noter qu'au cours de la campagne électorale, Kamala Harris a recueilli plus de fonds que Donald Trump, mais en même temps, les grands magnats de l'industrie et de la finance l'ont également adoubé. On a vu au premier plan Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui a été assez ingrat avec Biden, puisque sa fortune, qui était déjà de 25 milliards de dollars il y a 4 ans, a décuplé sous son administration et qui s'est fait le batteur d'estrade de Donald
De
Trump. On peut également noter que à l'ouverture de la bourse de Wall Street ce matin, les milieux d'affaires, les spéculateurs ont salué, comme il se doit, le retour de Trump aux affaires.
Justement, on vient de parler de la bourgeoisie et qu'en est-il du côté des travailleurs? On a notamment vu qu'il y a des grèves récemment qui se sont déroulées dans la classe ouvrière. Chez Boeing, la grève vient de se terminer. Est-ce que c'est sur une victoire des travailleurs?
Alors avant de parler de Boeing, il y a effectivement d'autres grèves en cours. Il y a une série de grèves dans l'industrie hôtelière qui est vraiment à l'échelle d'une industrie, puisque par exemple les travailleurs de l'hôtel Hilton, du complexe hôtelier Hilton à Hawaï, 2000 travailleurs ont été en grève pendant 40 jours. Ils viennent d'arrêter la grève avec le renouvellement de leur contrat et ont obtenu des augmentations de salaire. D'autres grèves sont en cours. À San Francisco aussi, 2000 travailleurs d'un hôtel sont en grève. Et d'ailleurs, la semaine dernière, lors d'une manifestation, la police a pris prétexte qu'ils aient bloqué une rue pour en arrêter 85. Et ça, c'est dans une ville qui est dirigée par un démocrate. Alors effectivement, la grève de Boeing vient de prendre fin après cette semaine. Les 33 000 travailleurs en grève sur les 170 000 que compte Boeing ont fait plier la direction de ce trust de taille mondiale, au moins sur la question des salaires. Il leur fallait 40% d'augmentation des salaires pour rattraper l'inflation passée et puis prévoir celle des 4 prochaines années. Ils ont obtenu 38% d'augmentation après avoir refusé successivement des propositions de la direction qui ne voulait ne leur donner que 25%, puis 30%, puis 35%. Bon, par contre, ils n'ont pas obtenu le rétablissement des pensions de retraite fixes pour les embaucher. Les nouveaux embauchés depuis 2014, et ça a certainement compté lors du vote où plus de 14 000 grévistes sur 33 000 ont refusé l'accord négocié par le syndicat et étaient prêts à continuer la lutte. Alors ces 7 semaines de grève, elles ont reposé sur l'acharnement des travailleurs, car l'appareil syndical recherchait depuis le départ un compromis avec la direction sur une base beaucoup moins favorable aux salariés. D'ailleurs, le dirigeant syndical de Boeing, juste à la fin de la grève, a déclaré, je cite, La grève va prendre fin et il nous appartient maintenant de reprendre le travail et de ramener cette entreprise sur la voie de la réussite financière. Bon, ben, ce n'est pas lui qui va donner comme but à un mouvement de remettre en cause le pouvoir des actionnaires sur une grande entreprise comme Boeing. De son côté, dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, Biden s'est félicité lui-même. Il a dit, au cours des 4 dernières années, nous, puisqu'il était au pouvoir, nous avons démontré que la négociation collective fonctionne, les bons accords profitent aux travailleurs, aux entreprises et aux consommateurs. Alors bien sûr, il tâchait de nier la lutte de classe entre les ouvriers de Boeing et leurs patrons, ce qui a pourtant fait l'actualité pendant 2 mois, mais c'est surtout que ce n'est pas la négociation qui a permis aux travailleurs de Boeing d'arracher une réelle augmentation de salaire, c'est leur lutte gréviste acharnée et c'est là que réside leur véritable victoire.
Et plus généralement, pour l'ensemble des travailleurs, à quoi ils peuvent s'attendre avec l'administration Trump?
La venue de le retour de Trump au pouvoir et puis le fait qu'il a obtenu des dizaines de millions de voix en disant des choses, y compris en traitant les immigrés d'animaux, ça, c'est pas très bon pour les travailleurs parce que, évidemment, dans une même entreprise, il y a des travailleurs de nationalité américaine, il y en a qui ne l'ont pas, il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Et donc, ça ne peut que jouer dans le sens de la division. Maintenant, les grèves comme celles dont j'ai parlé, même dispersées, même menées par des directions syndicales bureaucratiques, elles prouvent quand même que les travailleurs peuvent se battre pour leurs intérêts, au moins sur le terrain économique. Et c'est là que réside le seul espoir pour l'ensemble des classes populaires de voir s'ouvrir d'autres perspectives politiques, autres que cette éternelle alternance entre démocrates et républicains.
Alors, je vous propose maintenant de regarder plus en détail les résultats du Working Class Party, parti de la classe ouvrière, qui défendait dans ces élections un programme de lutte pour la classe ouvrière américaine. Soutenu par l'organisation trotskiste Spark, il présentait des candidats dans 3 États. Donc, voici les résultats partiels dans l'attente des résultats définitifs. Alors, en Californie, Juan Rey, mécanicien dans les transports urbains de Los Angeles, candidat à la Chambre des représentants des États-Unis dans le district 37, obtiendrait plus de 29 000 voix, soit à peu près 22% des voix face à la candidate démocrate. Dans l'Illinois, dans un district de Chicago, Ed Hershey, enseignant et candidat à la Chambre des représentants des États-Unis, obtiendrait 5% des voix. Dans le Michigan, enfin, 7 candidats se présentaient à la Chambre des représentants des États-Unis. Ils obtiennent, selon les districts, entre 1,4 et 2,8% des voix. Marianne Ehring était candidate au poste de secrétaire de l'éducation au Michigan. Elle obtient environ 2% des voix, ce qui fait environ 160 000 voix. 6 autres militants étaient candidats à des postes au sein de la Chambre des représentants de l'État du Michigan. La présence du Working Class Party était évidemment très limitée face aux dimensions des États-Unis, et ses résultats l'étaient également. Cependant, la démonstration qu'il est possible, dans la citadelle de l'impérialisme, de défendre une politique pour la classe ouvrière contre les capitalistes et contre la sale politique de l'État américain a été faite. En conclusion de cette vidéo, je vous propose de regarder l'intervention d'une candidate du Working Class Party du Michigan.
We have a right to be excited in those states.
Yes.
Because they can vote for the Working Class Party.
Yeah.
Yeah.
They can say that they are fed up with the Republicans and the Democrats.
Yeah.
They can say that they are fed up with the problems that they have caused.
Yes.
We can vote for the Working Class Party to say that working class people need their own party.
Yes.
It is no longer a want. We need
yes.
our own party.
Yes.
We can vote for the working class party to say that workers have nothing in common with the bosses. We can vote for a working class party to say that the bosses have two parties. And it's about damn time that the working class party has their own.
Yeah.
Yeah. We can vote for the working class party to say that we no longer accept the standard of living that is going down.
Right.
We can say that the working class has the answer to inflation, an answer to low wages and high prices. We can say that our wages should go up every time prices go up.
Yes.
And should be done immediately.
Yes.
The same should go for pensions and Social Security. We can say that with a vote for the Working Class Party. We can vote for the Working Class Party to say that the answer and problem to jobs is everyone who wants a job should have a job.
Yes.
Yes.
A job that allows you and your family a living, decent living.
Yes.
Divide up the work. Some people should not have to work themselves to death
mm-hmm.
when there are so many people out there looking for work.
Yes.
Workers can say that by voting for the Working Class Party.
Yes.